RFI. Grand reportage.
À quelques jours de l'élection présidentielle au Sri Lanka, un homme apparaît favori. Gotabaya Rajapakse, militaire de carrière, frère de l'ancien président. Un profil qui a de quoi rassurer après les attentats du dimanche de Pâques qui ont fait 260 morts. Mais le clan des Rajapakse divise. Au pouvoir, il avait notamment réprimé la société civile. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui craignent de le voir revenir au pouvoir. Élection présidentielle au Sri Lanka vers le retour du clan des Rajapakse. C'est un grand reportage de Sébastien Farsi.
Nous sommes à 60 km de Colombo, dans le bourg de Nathandia. La petite esplanade centrale est remplie de monde. Quelques 200 personnes debout sous le soleil tropical sont serrées ici, devant une estrade surmontée d'un dôme. Sur les côtés, les magasins sont fermés et une dizaine de grandes affiches colorées sont plaquées sur leur façade. Elles mettent en valeur un homme aux cheveux blancs, souriant. C'est celui que tout le monde est venu voir, Gotabaya Rajapakse. Ce candidat a 70 ans, bien plus âgé donc que son public, et il n'est pas d'un grand charisme, mais il a un atout de poids. Gotabaya Rajapakse était en effet le secrétaire d'État à la Défense pendant la présidence de son frère Mahinda, et il a donc contribué à la victoire militaire contre les Tigres Tamouls en 2009, après une guerre de 26 ans. Aujourd'hui, une nouvelle peur est née avec les attentats terroristes du dimanche de Pâques qui ont fait 258 morts. Et ce militaire de carrière affirme qu'il peut à nouveau sécuriser le Sri Lanka.
Sous la direction de Mahinda Rajapakse et grâce à l'armée, nous avons libéré le pays. Et cette liberté a ensuite été préservée grâce à des protocoles de sécurité inviolables. C'est pour cela qu'aucune attaque n'a eu lieu pendant notre mandat. Mais ce gouvernement, lui, n'a jamais accordé de priorité à la sécurité nationale. Il s'est incliné devant les puissances étrangères, a poursuivi et emprisonné les vétérans de guerre et les responsables du renseignement. Et cela a mis fin à ce système de sécurité. C'est à cause de cela que le terrorisme a refait surface. Quand nous reviendrons au pouvoir, nous rétablirons la sécurité dans cette nation. Et il n'y aura plus de place pour l'extrémisme au Sri Lanka.
Aeshion écoute ce discours d'un air grave et convaincu. Pour cette femme catholique de 46 ans, Gotabaya Rajapakse est celui qui peut protéger sa famille.
Le jour des attentats contre les églises, mon mari a été tellement choqué de voir les images à la télévision qu'il est mort d'une crise cardiaque. Nous sommes donc désespérés. Nous avons besoin d'un homme intelligent qui peut assurer notre sécurité. Cet homme, c'est Gotabaya, c'est évident, même un enfant, vous le direz.
La population est en colère contre le président sortant, Maithripala Sirisena. Il a en effet été prouvé que les agences de renseignement sri-lankaises et indiennes avaient informé Colombo de l'imminence de cette attaque et avaient même désigné ses principaux organisateurs. Le président aurait été mis au courant, mais il n'a rien fait pour déjouer ces attentats à cause, entre autres, de sa rivalité avec son premier ministre. Ashoka Guinigay, un agent de sécurité de 39 ans venu à ce meeting électoral, est extrêmement déçu par ce président sortant et il veut donc redonner sa chance au clan des Rajapakse qui a dirigé le pays entre 2005 et 2015.
En 2015, j'ai voté pour Sirisena car j'en avais marre du népotisme et de la corruption des Rajapakse. Je voulais un changement de gouvernement, de nouveaux visages. Mais ce gouvernement a créé d'autres problèmes. Les dettes ont augmenté, le niveau de vie a baissé et cela est devenu pire que sous les Rajapakse. Ma foi pour ce gouvernement a totalement disparu après les attentats du dimanche de Pâques. Donc aujourd'hui, je veux voir revenir les Rajapakse.
Ça vous fait pas peur que le clan des Rajapakse a déjà été accusé pendant qu'ils étaient au pouvoir d'enlever des gens et de tuer des journalistes? Vous avez pas peur que ça revienne si Gotabaya est élu?
Oui, il y a eu des abus quand ils étaient au pouvoir. Mais je pense vraiment que les erreurs du gouvernement actuel, qui ont permis aux attentats de Pâques d'avoir lieu, sont plus graves que les enlèvements commis par les Rajapakse.
Dans le quartier de Kochikale, au centre de Colombo, cette colère et cette douleur sont encore plus vives, car c'est ici qu'a explosé l'une des 6 bombes le 21 avril dernier. Elle a été placée à l'entrée de l'église de Saint-Antoine et a sauté à 8h45 du matin, au moment de la messe de Pâques, tuant 54 personnes. L'une de ses victimes était le père de Franklin Fernando, un jeune homme d'à peine 19 ans.
Me and my father, family went to the church.
Moi et mon père, nous sommes allés vers 8h du matin à la messe en tamoul, avec toute la famille. Entre 8h42 et 8h45, nous avons entendu un énorme bruit. Je sors alors en courant de l'église. Après quelques minutes, je retourne à l'intérieur et je vois que plusieurs personnes sont déjà mortes. Certaines n'ont plus de jambes, d'autres plus de bras. C'est alors que je vois mon père. Il est sur la gauche de l'église, où la bombe a explosé. Je lui dis « Lève-toi, papa, lève-toi !» Mais c'est trop tard, il est déjà mort. Le docteur nous dira ensuite que l'une des billes de la bombe a pénétré dans son cœur.
C'est dimanche matin et Franklin se trouve dans la petite maison familiale qui est située dans une rue populaire en face de l'église. Il est habillé d'une belle chemise bleu foncé et revient justement de la messe avec ses oncles et tantes.
Now it's for safe because the security guards and check the people.
Maintenant l'église est sécurisée car il y a des gardes de sécurité, des policiers et des soldats qui la gardent et inspectent les gens qui entrent. Ce n'était pas le cas à l'époque. Mais nous ne comprenons toujours pas comment et pourquoi cela est arrivé.
We can't understand what happened.
Franklin est trop jeune pour voter lors de la présidentielle du 16 novembre, mais son oncle, lui, pense le faire. Clinton Anthony ne sait pas encore qui choisir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne cède pas facilement aux promesses de Gotabaya Rajapakse.
D'abord, tous les principaux candidats sont des Singhalais et nous sommes tamouls, donc je ne suis pas sûr qu'ils nous représenteraient bien. En plus, tous les politiciens font les mêmes promesses. Ils utilisent la douleur des victimes des attentats pour remporter des votes. Gotabaya était secrétaire d'État à la Défense, mais ce n'est pas lui qui a tout fait à l'époque. Quand on devient président, c'est différent. Il devra prouver qu'il peut sécuriser le pays.
Nous traversons la rue pour nous approcher de l'église Saint-Antoine. Sur le trottoir, d'impressionnantes barrières de sécurité sont fixées dans le sol bétonné et un portique déployé devant la porte pour inspecter chaque personne qui entre. Des soldats de la marine en armes patrouillent régulièrement devant le bâtiment blanc. À l'intérieur, les ravages de la bombe ont été quasiment effacés. Les vitres remplacées, les murs réparés et repeints en blanc, l'hôtel en bois du patron Saint-Antoine refait à neuf. Seul demeure en fait, près de l'entrée, quelques trous creusés dans le sol cimenté. C'est ici qu'a explosé la charge mortelle. Le clergé laisse volontairement ses marques intactes pour ne pas oublier et il a placé juste à côté une plaque qui porte les noms des 54 personnes décédées dans l'attaque. La deuxième messe de la matinée vient de commencer en singhalais cette fois. Les enfants de chœur répandent l'encens dans l'église. Le révérend Jude Raj Fernando lui envoie de l'eau bénite sur les nombreux dévots. Ce recteur de l'église a fait énormément d'efforts depuis 7 mois pour aider les victimes de la paroisse à surmonter leur traumatisme, mais il réclame maintenant que les autorités fassent également leur part du travail.
La population a besoin de justice. Les autorités doivent pour cela mener une vraie enquête, et ça n'est pas fait aujourd'hui. Elles ont seulement créé quelques commissions. Avant les élections, tout le monde fait des déclarations, mais après, ils trouvent toujours des excuses. Tant qu'ils n'offrent pas une réponse claire à ces questions, nous ne serons pas satisfaits. Vous savez, il est facile de reconstruire une église. Oui, nous l'avons fait. L'église est très belle, tout est parfait, merci. Mais comment pouvez-vous rendre la vie à un père, à une mère ou à des enfants? Vous ne pouvez pas. C'est pour cela que nous avons besoin de justice.
Ces attentats ont été revendiqués par l'organisation de l'État islamique, mais les autorités sri-lankaises affirment que cette dernière n'a eu quasiment aucun rôle dans leur préparation. C'est un groupe islamiste local, le National Tawhid Jamaat, qui a fomenté ce massacre. Près de 300 suspects ont ensuite été arrêtés dans les mois qui ont suivi et deux commissions ont été mises en place pour déterminer les failles de sécurité. Une commission présidentielle d'abord, qui a mené à l'arrestation du secrétaire d'État à la Défense et au chef de la police nationale, accusés tous les deux de ne pas avoir agi après avoir été informés de l'imminence de l'attaque. Et un comité parlementaire ensuite, plus embarrassant pour le président lui, car le chef des services de renseignement a témoigné devant les députés que le président était lui aussi au courant de ce danger. Après ces attentats, la suspicion a grandi envers tous les musulmans de l'île, une communauté qui représente 10% de la population sri-lankaise et qui est relativement riche et bien intégrée. Et des groupes radicaux ont commencé à exploiter cette crainte. Début mai, soit 3 semaines après les attentats, des groupes de vandales masqués et organisés ont ainsi dévalé dans plusieurs bourgs de l'ouest du pays et ont saccagé les commerces musulmans et les mosquées. Mohamed Mohsin Indaz tient le New Fawaz, l'un des plus grands restaurants de la ville de Minawangoda, et il a été le premier visé de la ville.
Ils ont tout cassé à l'intérieur, les vitres, l'équipement, tout. Ils ont ensuite attaqué 70 commerces musulmans dans la ville. Ils devaient avoir reçu des bonnes informations de la part de personnes de la ville, car ils savaient exactement où ils allaient. Ce qui est suspicieux, c'est que le camion de pompiers de la ville était justement en panne à ce moment et qu'on a vu un conseiller municipal du parti du SLPP marcher dans la rue pendant les attaques.
Le SLPP est le parti du clan des Rajapaksé et c'est lui qui dirige cette ville. Ses membres ont déjà été accusés de sympathiser avec les bouddhistes radicaux comme le groupe du Bodou Balasena.
Ce sont les frères Rajapaksé qui ont fait naître ce problème. En 2014, ils ont permis au groupe du Bodou Balasena de lancer leur première révolte. Donc si demain ils reviennent au pouvoir, cela ne pourra qu'empirer. Cela nous fait peur.
Une grande horloge trône sur le principal rond-point de cette ville et juste en face se trouve maintenant un trou béant, comme une cicatrice sur le visage de cette ville. Une dizaine de magasins musulmans saccagés ici en mai ont été abattus par la municipalité et déplacés en périphérie. Rachid Mohamed Sawahir est le président de l'association de gestion de la mosquée de Minawangoda.
Le parti du SLPP cherche clairement à réprimer la population musulmane et on sait qu'ils feront tout pour y arriver. Donc nos votes ne sont clairement pas pour Gotabaya.
4 personnes ont perdu la vie en mai dans l'assaut de cette ville de Minawangoda, 9 en tout sur l'île du Sri Lanka. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Des attaques anti-musulmanes ont déjà été lancées un an auparavant par les bouddhistes radicaux dans la ville de Kandy, au centre du pays. Là aussi, un conseiller municipal du SLPP a été accusé et même arrêté pour avoir participé à l'assaut d'une mosquée. Mais dans les deux cas, le parti des Rajapaksé dément toute implication et soutient qu'il défendra toutes les communautés ethniques et religieuses du pays. D'autres personnes au Sri Lanka craignent la victoire de Gotabaya Rajapaksé. Ce sont les militants des droits de l'homme et les journalistes qui se battent pour punir les responsables des crimes commis pendant et après la guerre contre les Tigres tamouls. En 2009, l'armée sri-lankaise a en effet écrasé ces rebelles dans un bain de sang qui aurait coûté la vie à plus de 40 000 civils tamouls. Ensuite, le gouvernement des Rajapaksé a utilisé les lois antiterroristes pour réprimer les critiques. C'était la période des camionnettes blanches qui enlevaient des journalistes et des activistes. Et c'est ainsi qu'a disparu Pragit Eknaligoda le 24 janvier 2010. Ce journaliste du média en ligne Lanka News faisait campagne alors pour le parti de l'UNP opposé au clan des Rajapaksé et il s'apprêtait d'ailleurs à publier une enquête sur la corruption de la famille au pouvoir quand il a été enlevé seulement 2 jours avant l'élection présidentielle. Sa femme Sandhya se bat sans relâche depuis 9 ans pour savoir ce qui lui est arrivé et a déposé plainte contre 11 officiers des services de renseignement de l'armée. Le procès, cependant, n'a toujours pas commencé.
Mais que des Il y a deux témoins du crime. L'un est officier de l'armée en charge d'un camp militaire. Il a affirmé que des officiers du service de renseignement militaire ont emmené Pragit dans son camp en précisant que c'était un travail ordonné par le secrétaire d'État de la Défense. C'est la preuve la plus importante que nous avons contre Gotabaya Rajapakse. Malgré ça, le procureur général a toujours cherché à noyer le dossier. Ce n'est qu'en 2015, après l'élection de Sirisena à la présidence, que le Bureau national d'investigation a été saisi. Mais cela n'est pas allé plus loin.
Dans sa maison de la banlieue de Colombo, Sandhya Egnaligoda a placardé de grands posters portant le visage de son mari disparu. Ils sont soudain illuminés par les éclairs d'un orage tropical. Il y a un an, Sandhya a reçu des menaces de mort venant certainement de militants bouddhistes radicaux. Et elle se prépare maintenant au pire en cas de victoire de Gotabaya Rajapakse.
Gotabaya est un démon, c'est le genre de personne qui a tué des mendiants pour embellir Colombo. Donc il ne nous laissera pas tranquilles. J'ai peur davantage pour mes enfants que pour moi, mais je n'arrêterai pas ce combat. Je le fais pour moi, pour ma famille et pour toutes les femmes dont le mari a également été enlevé et qui n'ont même pas pu déposer plainte. Je le fais aussi pour ce pays, pour qu'il n'y ait plus personne qui soit ainsi enlevé de sa famille au Sri Lanka.
10 autres personnes ont déposé plainte contre Gotabaya Rajapakse aux États-Unis. Elles affirment avoir subi de graves tortures lors de leur détention par l'armée quand celui-ci était au ministère de la Défense. En tout, 34 candidats se présentent à cette élection présidentielle, ce qui en fait l'une des plus contestées qu'a connue le pays. Aucun sondage de grande ampleur n'a été mené pendant la campagne, mais Gotabaya Rajapakse semble mener la course en tête avec cette promesse de renforcer la sécurité des habitants du Sri Lanka. Cependant, pour Rocky Fernando, militant des droits de l'homme dans l'association Inform, il faut maintenant redéfinir cette notion de sécurité.
Les candidats ont une vision très étroite de la sécurité. Ils ne parlent pas de la sécurité des minorités ethniques et religieuses. Or, il y a toujours des Tamouls et des musulmans qui sont détenus de manière arbitraire depuis des mois ou des années. Eux ne se sentent pas en sécurité dans ce pays. Moi, en tant que militant des droits de l'homme, je ne me sens pas en sécurité, de même que beaucoup de journalistes indépendants. On ne peut pas limiter notre notion de la sécurité au simple fait de ne pas avoir de bombes dans nos églises ou dans nos hôtels. Beaucoup d'entre nous ont peur des lois pour la sécurité nationale, car elles ont engendré énormément d'insécurité. La loi pour la prévention du terrorisme, par exemple, est toujours en vigueur et elle autorise la police militaire à détenir quelqu'un pendant un an et demi sans que le juge ne puisse libérer la personne.
Un autre candidat pourrait remporter cette présidentielle, c'est Sajid Premasada. Il est ministre dans le gouvernement sortant et candidat du Nouveau Front démocratique. Mais sa campagne est également tournée autour de la sécurité et de la lutte contre les extrémismes religieux, ce qui inquiète Rocky Fernando.
Aucun des deux candidats n'a formulé de propositions constructives sur les questions des personnes disparues, sur la responsabilité de celles accusées de crimes graves pendant la guerre, ou sur la manière de mieux partager le pouvoir avec les Tamouls. Ils se contentent d'affirmer que les militaires sont des héros de la guerre et ne reconnaissent même pas qu'il peut y avoir des criminels parmi eux. En fait, ils ne veulent pas affronter les institutions qui posent problème au Sri Lanka, l'armée et le clergé bouddhiste.
Élection présidentielle au Sri Lanka vers le retour du clan des Rajapakse. Un grand reportage de Sébastien Farcy. Réalisation Pierre Chaffanjon. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.